au long de l'année liturgique, les offices célébrants nous mettent souvent en face de ce mystère de la croix. Tout au début de l'année liturgique, le 14 septembre, il y a la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, qui nous rappelle la découverte de la Sainte Croix à Jérusalem par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Un peu plus tard, le 30 novembre, nous célébrons la fête du Saint-Apôtre André, le premier appelé, qui, comme le montre le récit de sa passion, aimait tellement le mystère de la croix, désirait tellement la croix du Christ, et finalement accomplit son mystère, son martyr sur la croix. Et puis il y a ce dimanche au cœur du carême, et bientôt nous aurons les offices de la grande semaine. Et si la liturgie remet si souvent devant nos yeux ce mystère de la croix, ce n'est pas seulement pour nous célébrions comme ça de temps en temps au cours de l'année liturgique, mais c'est pour que nous intériorisions profondément, si je puis dire, ce mystère. C'est pour nous donner le sens de la croix. Le sens de la croix, c'est-à-dire finalement le sens de la souffrance dans nos vies. Le sens que Dieu veut que nous donnions à nos souffrances et que par sa grâce, il nous aide à lui donner. Pourtant, cet acte syrien nous dit: Dieu n'a pas voulu la souffrance des hommes. Dieu n'aime pas la souffrance des hommes. Et pourtant, les pères de l'Église, comme Saint Grégoire le Théologien, comme Saint Grégoire Palamas, qui reprend les paroles mêmes de Saint Grégoire le Théologien, les pères de l'Église nous ont dit: on ne peut pas servir Dieu mieux que par la souffrance. N'est-ce pas une contradiction là? Non, car justement, Saint-Hilaire Syrien précise bien, Dieu n'aime pas la souffrance des hommes. La souffrance n'a pas de valeur devant Dieu, à moins que nous en fassions une offrande d'amour. Et là est tout le secret du mystère de la croix. Notre corps, notre sensibilité, toute la partie matérielle de nous-mêmes, évidemment, n'aime pas la souffrance. Notre corps ne cherche que la satisfaction de nos sens, ne cherche que le plaisir, et ne peut, par lui-même, tant qu'il n'est pas transfiguré par la grâce, transfiguré par la gloire lors de la résurrection finale, notre corps ne peut qu'avoir horreur de la souffrance. Mais notre âme, elle, la partie spirituelle de nous-mêmes, tant non pas vers la souffrance comme telle, mais vers le don de soi, vers l'amour véritable qui n'est pas amour égoïste, amour intéressé, mais au contraire, amour totalement gratuit, aussi gratuit qu'il est possible une créature qui est véritablement don de soi, à l'image de ce don de soi qui est la vie même des personnes divines au sein de la Trinité. C'est là que notre âme, déjà, c'est ce vers quoi notre âme tend, par nature, par sa propre nature. Et la grâce divine vient surélever, diviniser et rendre efficace cette tendance profonde de notre âme. Malheureusement, notre âme peut aussi s'incurver en quelque sorte vers notre corps, notre sensibilité, et trouver sa joie, une joie misérable, qui n'est pas une vraie joie, mais qui est le plaisir, en se liant à notre corps dans ce qu'il a de passionnel, dans ce qu'il a de mauvais. Mais il peut arriver aussi, il arrive chez les saints justement, chez les chrétiens, les saints, c'est tout simplement les chrétiens qui ont été aussi loin que possible dans le chemin qui est tracé par la grâce du baptême. Chez tous ces chrétiens qui ont vécu en plénitude leur vie chrétienne, bien nous constatons qu'il arrive un moment où, à l'inverse, c'est le corps lui-même qui finit par désirer ce que désire l'âme, par trouver sa joie, par trouver une sorte de plaisir supérieur dans ce qui fait la joie de l'âme, c'est-à-dire dans le don de soi, là encore, dans cet amour véritable qui n'a plus rien de cet égoïsme qui marque l'amour purement altruiste. Et c'est ainsi que, oui, les saints ont pu ainsi désirer la souffrance, ont pu ainsi aimer la souffrance, non pas du tout pour elle-même, mais parce qu'elle permet d'incarner cet amour véritable. Et ce qui nous explique que chez des spirituels occidentaux, je pense aux grands spirituels du Carmel qui sont dans la tradition occidentale, ce qui sans doute était le plus proche de la tradition philocalique de l'orthodoxie, on voit aussi, nous trouvons aussi cet amour de la souffrance. Je pense à Jean de la Croix, à une Thérèse d'Avila, à une Thérèse de Lisieux, à une Élisabeth de la Trinité. Oui, nous retrouvons là aussi cet amour de la souffrance, mais de la souffrance justement vécue comme une manière d'incarner dans tout notre être qui n'est pas encore transfiguré dans notre corps lui-même tel qu'il est ici-bas, d'y trouver un moyen d'exprimer notre amour du Père, notre amour du prochain. C'est là le grand secret de la vie chrétienne, c'est cela qui peut véritablement transfigurer notre vie, ou sous une forme ou sous une autre, la souffrance a tant de place. Que cette souffrance ne soit pas quelque chose de négatif, ne soit pas quelque chose que nous portons en gémissant, mais qu'elle soit véritablement l'expression de notre amour, de notre Père Céleste, de notre communion souffrant du Christ. C'est le Christ qui souffre en nous, qui vient revivre en nous sa passion et son amour du Père, son amour des hommes. Oui, c'est là, au fond, je crois, là au moins les grands secrets de la vie chrétienne. Nous avons tous les jours une occasion de méditer là-dessus, une occasion à laquelle nous ne pensons pas. Je pense à ces six psaumes que nous lisons tous les jours au début de l'office de l'orthodoxe. Tous les jours, nous reprenons six psaumes qui reviennent tous les jours. Et si ce groupe de six psaumes a une telle place dans notre vie liturgique, c'est que les pères qui ont constitué cet office, jadis, et ça remonte aux origines de la vie monastique, au 5e, 6e siècle, ces pères y ont vu un secret. Et ce secret, c'est que ces psaumes sont des psaumes que le Christ a récités, que le psaume a récité, et des psaumes qui expriment justement à la fois la souffrance de l'homme pécheur, qui sait que sa souffrance est une conséquence du péché, mais en même temps qui est transfigurée par la confiance dans la miséricorde du Père, qui est transfigurée par la certitude de la résurrection. C'est cela qui exprime ces psaumes. Le Christ a assumé non pas seulement un corps et une âme individuelle, mais d'une certaine façon, il a assumé toute l'humanité. Le Christ a pris sur lui toute l'humanité pécheresse et souffrante pour la porter, pour participer à sa souffrance et par là vaincre cette souffrance d'être sa mort. Le Christ a, je puis dire, assumé l'humanité en état de mort vivante pour la faire participer aussi à sa résurrection et justement transformant la souffrance, conséquence du péché, marque du péché, en signe, en expression de l'amour le plus parfait qui fait sur terre, du don de soi, frontier radical, allant jusqu'à la mort, mais une mort justement acceptée dans l'amour comme expression d'amour. Oui. Et chaque matin, l'exapsalme, si nous y réfléchissons, si nous pensons bien au sens de tous ces psaumes, nous met en présence de ça, ce mystère du Christ qui n'hésite pas à parler de son péché, non pas du péché personnel, mais le bon pasteur prenant la brebis perdue sur ses épaules, il a voulu assumer notre péché et notre souffrance dans la suite. Et c'est cela que nous lisons à travers ces psaumes, que le Christ a ressuscité, a récité, il a aimé. Oui. Vivons ce mystère de la croix. Ayons-en le sens profond, demandant au Seigneur que cette vénération de la foi que nous réitérons ainsi plusieurs fois dans l'année nous fasse bien percevoir tout cela. Certes, il est aussi des manières malsaines d'aimer la souffrance. Les psychologues contemporains ne manquent pas de le dire. Seulement, nous avons un critère, nous avons un moyen que les saints pères, déjà, saint Antoine, dans son désert, avait donné à ses disciples pour reconnaître ce qui vient vraiment de l'Esprit de Dieu et ce qui est déformation, caricature diabolique de ce qui est, de ce qui serait selon Dieu. C'est certain qu'une souffrance qui s'accompagnerait d'amertume, qui s'accompagnerait, je dirais, d'une, à la fois d'un attrait malsain, mais en même temps de quelque chose d'aigre, de quelque chose d'amer. Oui, une telle souffrance, même si elle est désirée, ne sera pas saine. Et ce n'est certainement pas le genre de souffrance que les pères prônent quand ils disent qu'on peut servir Dieu, et mieux que de toute autre manière que la souffrance. La souffrance à travers laquelle l'action de l'Esprit Saint s'exprime, à travers laquelle le Saint-Esprit peut véritablement agir et transfigurer par ce feu divin qu'il porte, c'est une souffrance qui sera paisible, une souffrance qui est accompagnée d'une joie secrète, vraie. Il n'y aura rien de cette amertume à laquelle je fais allusion. Oui. C'est de cela que tous les saints, tous les grands spirituels, à travers l'histoire, nous ont donné l'exemple. Eh bien oui, que cette vénération de la croix nous fasse entrer profondément dans ce mystère. Que le Saint-Esprit nous donne au fond de notre cœur ce sens de la souffrance et cet amour de la souffrance ainsi compris. Et alors, oui, nous pourrons glorifier notre Père des cieux. Nous communierons profondément à cet amour filial que le Christ a ainsi exprimé envers lui sur la croix. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, sur la gloire, dans les siècles et les siècles.